Bonjour, chers écouteurs.
L'opéra comique.
Mesdames et messieurs, en cette fin de l'année 1714, notre grand roi Louis XIV accorde à notre troupe de forains le privilège inédit et exclusif de joindre la parole au chant dans nos pièces. Un nouveau théâtre est né, le théâtre de l'opéra comique.
La France de la monarchie absolue est ainsi faite que le roi a tout loisir de définir les genres des spectacles et de distribuer des privilèges. Napoléon s'arrogera ensuite le même pouvoir de nommer. Son décret de 1806 caractérise l'opéra comique comme une comédie mêlée de chants, à moins que ce ne soit du chant coupé de dialogue. Si impériale soit-elle, la définition du genre s'avère quelque peu flottante. En réalité, l'opéra comique ne cesse d'être considéré dans sa concurrence ou sa complémentarité avec l'opéra. Le hasard fait en outre que Garnier devienne, au XIXe siècle, le voisin de Favart, plus anciennement ancré dans le quartier. Pendant des décennies, les deux salles, les deux troupes vivent dans la symétrie, la dissymétrie et l'émulation. Favart se targue cependant d'être de comportement moins sérieux et d'avoir la tête davantage chercheuse. La crise des années 30 va affaiblir les deux salles d'un même mouvement. L'État les réunit alors dans une administration commune. En mars 1990, il y a 25 ans, c'est Bastille qui devient le vaisseau amiral. Garnier, à son tour, connaît le sort de l'adjoint. L'opéra comique qui avait failli couler dans son sillage est disjoint. L'État lui donne quelque chose comme une lettre de course, c'est ça. Il est un bateau corsaire qui définit comme il veut ce qu'il fait. L'opéra comique est plus que jamais ce qui se joue à l'opéra comique.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jérôme Deschamps, directeur depuis 10 ans, allez, de l'opéra comique, qui se vit assez, Jérôme Deschamps, comme un corsaire. Enfin, vous êtes un corsaire avec un pavillon quand même, Jérôme.
Oui, écoutez, moi, j'avais une mission importante que je m'étais proposé de mener à bien, c'est-à-dire de remettre cette maison un peu dans les pas de son histoire, elle qui n'en avait plus les moyens.
Alors, pour marquer la fin de votre mandat, une série de spectacles, vous parlerez de tel ou tel d'entre eux, une exposition qui a commencé au Centre National du Costume de Scène à Moulins, excellemment mise en scène par
Macha Makaïev.
Oui, qui est très souvent à vos côtés.
Oui, mais là, elle a été choisie par ce centre pour faire cette exposition. Et je dois dire que l'exposition est savante parce qu'elle est très documentée, qu'on y trouve des costumes très anciens, certains de Carmen. Mais aussi, elle n'est pas arrogante, elle est joyeuse, elle est légère. Elle n'est pas comme de ces expositions qui ont l'air de vous dire « mais au fond, vous ne savez pas grand-chose ».
On ne sait pas encore exactement le contenu de l'exposition du Petit Palais qui va suivre à partir du 18 mars. Sinon, le titre de Carmen à Mélisande et puis le catalogue que vous avez déjà eu en main, Jérôme Deschamps.
Qui est très beau. Et puis, on a quand même une idée, quand on dit de Carmen à Mélisande, c'est qu'on va s'intéresser à cette période entre 1875, création de Carmen, à 1902, celle de Péléas.
Ben nous, on va remonter bien plus avant, 1714. On sait que Louis XIV, qui distribuait des lettres de course, distribuait aussi des privilèges dans les théâtres dont il disait ceci pour la comédie française, ceci pour les comédiens italiens qui ont été longtemps protégés par lui jusqu'en 1697, leur expulsion provisoire, ceci pour l'Académie royale de musique. Et qu'est-ce qu'il allait advenir d'une troupe de forains qui cherchait sa place, qui guignait au moins un strapontin? Et bien, un règlement de fin de règne, 1714.
Voici qu'un cataclysme s'abat sur nous.
Moi, la comédie française.
Moi, l'opéra de Paris.
Fort de nos privilèges.
Nous vous interdisons musique.
Et dialogue.
Ils ont envoyé la police pour nous réduire au silence. Sans musiciens, sans danseurs, sans comédiens, que puis-je faire?
Je suis seul au monde et je n'en puis plus.
Monsieur, il vous est également signifié par la présente l'interdiction formelle de chanter.
Cher enfant, l'Opéra de Paris, toujours et en tout lieu, vous protégera, moyennant le paiement annuel d'une petite redevance.
Oh !
Mais c'est hors de prix ! L'opéra comique revient à la ville !
C'est un extrait d'un spectacle, on en entendra d'autres, consacré au tricentenaire avec Michel Faux.
Avec Michel Faux, avec Christian Eck, qui représente fort bien la comédie française, puisqu'il en fait partie.
Alors, les forains qui cherchent à se constituer un monde à eux, vont avoir la possibilité de faire un court répertoire avec l'Académie royale de musique.
Alors, ce qu'il faut se dire d'abord, c'est qu'il y a bien la guerre des théâtres, hein, la guerre des institutions entre elles, et qui est féroce. Alors, l'éviction des comédiens italiens par le roi font que des forains, les troupes de forains, récupèrent le répertoire des Italiens et bravent au fond les deux institutions que sont l'Académie royale de musique, l'ancêtre de l'Opéra de Paris, et la Comédie française. Ce sont deux institutions qui ont chacun un privilège. L'Opéra de Paris, celui du chant. La Comédie française, celui de la comédie. Et donc, ces forains, ils sont impertinents, ils sont insolents, ils essayent de tourner la loi, ils récupèrent des airs connus, ils pratiquent le vaudeville, c'est-à-dire qu'on remplace les paroles par des textes impertinents. Ils sont pourchassés par la police, parce que la Comédie française ne veut pas entendre parler de ces comédiens. Alors, ils rusent en utilisant des monologues pour ne pas dialoguer, puisque le dialogue est interdit. Et puisque le monologue aussi est bientôt interdit, on utilise des panneaux, des écriteaux. Et c'est comme ça que se construit le genre de l'opéra comique qui alterne l'art du chant et l'art de la comédie. Parce qu'il faut bien dire que comique ne veut pas du tout dire que c'est drôle. On pourra le vérifier beaucoup plus tard en pensant à Carmen et à l'Acmé.
On y viendra, mais au XVIIIe siècle, le genre n'est pas encore embourgeoisé comme le sera l'opéra comique parfois au XIXe siècle. Et il doit survivre en combattant sur plusieurs fronts. Alors l'Académie royale de musique veut bien laisser quelques rogatons aux forains, mais voilà que les comédiens italiens qui avaient été expulsés, vous le disiez, Jérôme Deschamps, en 1697, reviennent et un moment même absorbent.
Absolument.
L'opéra comique.
Oui, les troupes fusionnent, parce qu'il s'agit bien d'une bataille aussi économique. Il faut dire que effectivement, on a pactisé d'une certaine façon avec l'Opéra de Paris en payant. Je veux dire que certaines troupes ont eu cette autorisation de chanter, d'autres pas d'ailleurs, qui ont continué à laisser le genre se construire. Et puis, c'est vrai que ces troupes fusionnent, les Italiens reviennent, et puis le genre se construit. Il se différencie vraiment du grand opéra, comme on peut dire, en restant près du peuple. Il est près de la société, il est au contact. Et en fait, il a un énorme succès. Et là, on est un peu obligé de parler de Favart et aussi de Marie-Justine Favart, son épouse, qui sait à peu près tout faire, mais qui donne à l'interprétation un sens particulier, puisque, par exemple, elle privilégie la vérité des personnages à l'embellissement. Elle invente une chose, elle va chercher des costumes de paysans, elle chante en sabots, elle ne se maquille pas, elle ne se coiffe pas. Elle préfère, sans les dire, pour être près de la vérité, elle invente une nouvelle forme d'interprétation.
Favart, c'est le nom que va prendre la première salle construite en 1783. Il y en aura une autre qui portera toujours au même emplacement le nom de Favart, construite en 1840.
1840 ! Inauguration de la deuxième salle Favart.
Que de chemin parcouru depuis le champ de foire.
Des loges pourvues de salons à l'éclairage intimiste font jaser.
Enfin, me voilà à l'opéra comique. Je suis tellement heureux d'être à Paris.
Monsieur Richard Wagner?
Ja.
Le directeur ne peut vous recevoir. Il vous prie de lire ceci.
Merci, mon ami.
Cher Richard Faulkner, j'ai écouté les extraits de votre défense de mai. Et je crois superflu que nous vous rencontrions. Un opéra de 5 heures, y songez-vous. Et puis que de texte. Il est délicat pour un compositeur allemand de s'acclimater à l'esprit de la musique française. Vous devriez tirer le meilleur enseignement de nos auteurs. Voyez Boldieu, Aubert ou Erol.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Alfredo Kraus, Thomas Fulton, dans la Muette de Portici, l'opéra qui a déclenché à la Monnaie de Bruxelles la révolution belge, c'est un opéra d'Aubert. Alors, les noms que citait Wagner et conduit, c'est Aubert, Boieldieu et Erold. Alors, vous allez donner le prêt au clerc de Erold dans votre fin de mandat.
Oui, c'est le pré-au-clair, c'est, on peut dire, le chef-d'œuvre des rôles. Et là, on le reprend avec une nouvelle production, avec Eric Ruff qui en assurera la mise en scène. Vous
voyez, c'est le rôle d'Eric Ruff, la comédie française. Mais la première apogée, justement, elle n'est pas dans cette deuxième moitié du 19e siècle qui commence, beaucoup d'Offenbach à l'opéra comique, Bizet...
Tant d'Offenbach. Offenbach, lui, a rêvé vraiment d'être à l'opéra comique. Et au fond, il y est très peu. Il va y être vraiment qu'avec les contes d'Hoffmann, c'est-à-dire à la fin de sa vie. Offenbach, il mène une sorte de croisade contre cet opéra comique dont vous parlez, de Erol, et tout ça, qui, au fond, ça s'agit. On parle de la campagne avec beaucoup de douceur, on a le culte de l'amitié, on doit rester le théâtre des familles, des arrangements matrimoniaux. Offenbach, lui, au fond, il rêve de cette impertinence du temps des foires. Il espère venir à l'opéra comique. Il est très souvent au bouffe parisien, on ne le laisse pas venir jusqu'à Favart.
Carvalho a été un grand directeur dans cette seconde moitié
Absolument.
Du 19e siècle.
Très très grand directeur de l'opéra comique. L'opéra comique connaît tout au long de son histoire des hauts et des bas et des moments de ruine et des moments de mise en danger très 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 sérieuse.
Ben oui, 1887 par exemple, un incendie ravage la seconde salle Favart, peut-être une centaine de victimes. Mais on parle des salles, Jérôme Deschamps, de leur matérialité physique, mais je voulais signaler aux auditeurs qui n'imaginent pas qu'il existait des réseaux virtuels d'accès à l'opéra ou à l'opéra comique ou aussi bien à la comédie française en cette fin du 19e siècle. Ça s'appelait le théâtrophone.
C'était en 1881. La première installation qui était faite chez des particuliers a été chez le président de la République de l'époque qui était Jules Grévy. Puis il y eut quelques abonnés parmi les clients les plus richissimes du téléphone, notamment les Rothschild, qui avaient un abonnement au théâtrophone pour leur château de Touraine, de sorte que le soir, quand ils leur prenaient envie de leur lointain château d'écouter le théâtre français ou l'opéra, eh bien ils immobilisaient une ligne téléphonique de conversation pendant 2 heures, 3 heures, et ils payaient la transmission au tarif fort, 3 minutes par 3 minutes. Vous allez entendre une transmission par le théâtrophone, donc par le téléphone, de Boris Godounov.
Alors, pour essayer, Jérôme Deschamps, de définir au moins négativement l'opéra comique, Boris Godunov, Moussorgski, les œuvres russes qui avaient été jouées d'abord au Châtelet, ça n'a jamais été la spécialité de l'opéra comique. L'opéra comique, c'est quoi? L'italien, le français?
C'est avant tout l'opéra français.
L'opéra français.
Bien sûr.
Alors, dans l'opéra français, est-ce qu'il n'y a pas un côté tête chercheuse qui caractériserait l'opéra comique? On a laissé la salle brûler en 1887. Voici la troisième salle Favart, qui est inauguré toujours au même endroit, 1898.
Inauguration du nouveau théâtre de l'opéra comique. L'équipement technique est révolutionnaire. C'est le premier théâtre de la capitale à bénéficier de l'électricité. Notre directeur, M. Albert Carré, affiche de belles ambitions. 1900, création de Louise, roman musical de Gustave Charpentier. 1902, création de Péléas et Mélisande de Claude Debussy sur un livret de Maeterlinck.
Presse-toi, Péléas, tiens, je ne l'avais jamais remarqué, mais tu as le visage grave et amical de ceux qui ne vivront pas longtemps. Il faut voyager, il faut voyager. Je vais lui obéir. Ma mère l'écoutait pleurer de joie. Tu ne t'en es pas aperçu. Toute la maison semble déjà revivre. On entend respirer, on entend marcher.
Péléas, qui va attendre un demi-siècle pour être repris à Garnier. Ça, c'est la justification de l'avant-gardisme prudent de l'opéra comique au tout début du XXe siècle.
Et d'Albert Carré,
son directeur,
son grand directeur, voilà, dont le buste est dans mon bureau. Oui, avec Messager. Non, mais l'opéra comique a toujours été très inventif. Là, il s'agit d'une révolution. Extraordinaire, avec ce Péléas qui est mondial. L'opéra comique avait créé Carmen, un peu par accident, et un peu, et d'ailleurs dans l'insuccès, et un peu à contre-cœur aussi, parce que cette fille dépravée, qu'on n'est pas bien au public. Et donc, ça fait un peu scandale à l'époque.
Il y a quand même des considérations commerciales qui jouent, et qui explique davantage les choix que font d'un côté Garnier, de l'autre côté Favart.
Oui, franchement, je ne suis pas sûr que de monter Péléas et Mélisande, de faire ce pari extraordinaire, ce soit un calcul commercial.
Oui, mais après, il faut bien se maintenir, parce que vous êtes un directeur nommé par l'État. Les directeurs de l'opéra, Carré, l'opéra comique jusqu'en 1913, le grand Jacques Roucher, l'opéra Garnier à partir de 1915. Ce sont quand même s'ils sont subventionnés, des concessionnaires qui doivent apporter de l'argent quand c'est pas leur argent, et les préoccupations commerciales expliquent l'émulation entre les deux établissements.
Bien sûr, mais il y a la nécessité d'un positionnement, puis il est bien normal que ces maisons recevant beaucoup d'argent des contribuables et aussi des recettes.
Ça, c'est la subvention, l'argent des contribuables.
Public, absolument. Oui. Et elles retrouvent leur public. Mais c'est à chacun de trouver son identité.
Dans les années 1930, ce sont les deux salles qui sont en difficulté si grande que le gouvernement, au moment du Front Populaire, décide de les nationaliser, clairement, puis de les réunir, ça s'appelle la réunion des théâtres lyriques nationaux. À partir de ce moment-là, l'opéra comique, qui garde sa troupe, n'est plus que la seconde salle de la flotte.
Là, évidemment, il y a d'une certaine façon le risque d'une perte d'identité, mais bientôt, on y voit une troupe à l'opéra comique, et il y a des personnages comme Sénéchal, Christiane Hédapierre, des gens absolument merveilleux qui ont compté dans l'histoire de l'opéra comique.
1940, fermeture de l'opéra comique. Pendant l'occupation, toutes les créations sont de compositeurs français. Une seule exception, Warian Anaxos de Richard Strauss.
Thank you.
On a bien compris la ligne de défense de l'opéra comique. Le français d'abord, c'est sûr. Ariane Anaxos a été la seule production allemande pendant l'occupation. Néanmoins, après la libération, Jacques Rouchet, qui dirigeait les deux salles, l'opéra et l'opéra comique, est limogé. Mais c'est peut-être un grand moment pour la tradition vocale française que les années qui suivent, avec une troupe.
Oui, avec une troupe, avec des gens merveilleux, avec Christiane Edapierre, avec Michel Sénéchal, d'autres encore, très nombreux. Et cette troupe maintient, enfin inscrit une voilà cette tradition du chant français, cette capacité à jouer la comédie, à se faire comprendre aussi quand on chante très clairement. Et ces gens-là sont encore avec nous, et j'ai saisi ce bonheur pour créer l'Académie de l'Opéra Comique, qui réunit de jeunes chanteurs chaque année, et qui cette académie est présidée d'ailleurs par Christiane Edapierre, et on assiste à cette transmission dans la maison.
Transmission d'un style, alors, on va employer un mot savant, idiomatique, c'est-à-dire qu'on y insiste sur les particularité du français, le parler doit t'aider à comprendre la musique.
Absolument, oui.
Et doit être compris.
Oui, absolument. Et puis le chanter aussi doit être compris. C'est pas toujours le cas. Mais il faut dire que cette salle Favart, qui a eu une acoustique extraordinaire, est un soutien précieux.
Jérôme Deschamps, dans la période qui suit la libération, l'opéra comique étant dans le sillage de l'opéra, s'y produisent quand même encore quelques créations dans la lignée de l'avant-gardisme prudent et éclairé qui caractérise l'établissement. Le grand nom à l'époque, c'est Poulenc.
Bien sûr, Poulenc est là et s'est merveillé avec Denise Duval.
La voix humaine.
La voix humaine, bien sûr. Et c'est quelque chose d'absolument historique. Et voilà, on a redonné. Oui, ben aussi avec Anna Caterina Antonacci, il n'y a pas si longtemps, qui a été merveilleuse.
Mais j'ai bien compris, vous reprenez ce qu'il y a de meilleur dans la tradition de l'opéra comique, et en conséquence, vous définissez l'histoire précédente de l'opéra comique en fonction des résultats que vous avez mis au pinacle. Néanmoins, on ne peut pas cacher que dans les années 50-60, c'est l'ensemble des deux institutions d'ailleurs qui étaient en déclin, celui de l'opéra, à entendre le ténor Michel Sénéchal que vous citiez tout à l'heure, étant peut-être le plus grave.
Je vais vous raconter pourquoi on a fermé l'opéra comique et comment cela s'est fait. Le Palais Garnier était complètement délaissé par le public. Je me souviens par exemple d'avoir assisté à une représentation de Traviata à Garnier, où il y avait exactement 40 personnes dans la salle. Mais, en revanche, l'opéra comique fonctionnait à merveille. Les ouvrages du répertoire faisaient salle comble. Alors, la situation de Garnier était telle que les responsables de l'époque ont fait appel à Rolf Liebermann pour prendre la maison en main. Avant d'accepter ses fonctions, il a demandé évidemment beaucoup d'argent. Or, à l'époque, il n'y avait plus assez d'argent pour faire fonctionner les deux théâtres. Alors on a donné pratiquement tout l'argent à Liebermann pour sauver le Palais Garnier. Mais en revanche, on a sacrifié l'opéra comique. Et on a sacrifié l'opéra comique qui était en pleine vie.
Et c'est ainsi que l'opéra de Liebermann a laissé un grand sillage et que la troupe de l'opéra comique a été licenciée quand même. Très vite, la salle rouvre, mais ce n'est plus qu'une annexe et il faut qu'elle se singularise. Alors, pour défendre l'opéra comique aujourd'hui, il y a une coalition hétéroclite. Il y a les gens qui vous disent « c'est la grande tradition vocale française » et puis il y a les gens qui vous disent « ici est produit un événement fondateur, 1987, la redécouverte du baroque. »
Oui.
« Attis de Lully », c'était oui. aussi au programme
Bien
de
sûr.
Votre direction.
Mais
alors,
oui,
qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ?
On l'a remonté, mais c'est une véritable renaissance du baroque à laquelle on a assisté grâce aux arts florissants, à William Christie. Et c'est un événement tout à fait considérable qui a fait réaliser aussi que cette acoustique de l'opéra comique, de la salle Favart, est exceptionnelle. On est dans le son. Salfavar. On n'assiste pas à un spectacle, on est enveloppé par le son, on est avec les artistes, il y a quelque chose d'absolument exceptionnel et c'est un écrin extraordinaire pour toute la musique baroque. Mais l'opéra comique ne doit pas être un musée, même si c'est créé plus de 2000 œuvres, ça a toujours été une maison de création.
Alors donc, la veine, la tradition vocale française, la veine baroque et l'idée aussi de la création ou de la surprise. Alors ça va être l'apothéose là, votre fin de mandat. Il va y avoir juxtaposé en peu de semaines les contes de la lune vague après la pluie, adaptation du cinéma japonais, oui, avant-gardisme, oui. Éclairé. Et prudent. Et les mousquetaires au couvent.
Oui.
Côte à côte.
Oui. Eh ben, j'adore ce frottement-là. Mais vous savez, à l'opéra comique, il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de chœur. Et c'est ça qui nous a permis, au fond, de réunir les bonnes forces autour de chaque projet et de pouvoir proposer comme ça une palette de couleurs tout à fait extraordinaire et variée.
Tout ça dans la meilleure intelligence avec le grand voisin, quand Nicolas Joël, on s'en souvient peut-être, a dirigé l'opéra de Paris, Bastille Garnier, il faisait signer un contrat à ses chanteurs, vous ne vous produisez pas sur une autre scène lyrique parisienne,
oui,
c'était vous.
Parfaitement illégal d'ailleurs, et il faut le dire, mais bon, on peut que déplorer cette absence d'entente, mais enfin, ça nous a pas du tout empêché de vivre notre vie et comment, et de retrouver le public. Vous parliez d'Attis, c'est un événement merveilleux, mais moi, je n'oublie pas à quel point, à cette époque, la vie de l'opéra comique a été chaotique et difficile. Hein. Par chance, aussi parce qu'on m'en a donné les moyens, on arrive à redonner à cette maison sa vocation lyrique.
Alors, faites quand même attention, très chers auditeurs, l'exposition de Moulin au Centre National du Costume de Scène, elle dure jusqu'au mois de juin. Au Petit Palais, à partir du 18 mars, une exposition de Carmen à Mélisande, tiens, c'est notre générique de fin. Et elle dure aussi 2 mois, un colloque mi-mars, mais l'opéra comique ferme pour 18 mois de travaux, quand le successeur de Jérôme Deschamps prend son élan. Et c'est la même chose d'ailleurs, c'est formidablement coordonné Paris, pour le théâtre du Châtelet et le théâtre de la Ville. Donc il faut appareiller très vite parce que les ports vont être fermés dans la saison qui vient. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, la préparation Ilinka Negulesco et à la technique Grégory Vallon.